Alors, bonjour Frédéric, bonjour à tous nos auditeurs pour cette conférence téléphonique sur le Brexit, avec Frédéric Buzaret. Alors Frédéric, on te connaît tous comme gérant d'échiquier agresseur. Aujourd'hui, on te fait intervenir sur un sujet qui est le Brexit. Je dirais que la raison en est que finalement, semaine après semaine, on se rend compte que tu es probablement le meilleur expert sur le Brexit. J'aime bien dire que je pense que tu es probablement la personne qui suit à Paris, je pense, de la façon la plus précise ce qui se passe en Grande-Bretagne, et tu nous donnes toujours des explications extrêmement détaillées sur l'évolution de la situation, et Dieu sait que c'est une situation qui évolue de jour en jour. On peut s'en apercevoir encore aujourd'hui avec les dernières déclarations de Guy Verhofstadt, président du comité de pilotage du Brexit, qui a fait savoir les propositions que formulait Boris Johnson. Ne constituait pas la base d'un accord. Alors peut-être déjà une première question, Frédéric, comment se fait-il que tu t'intéresses autant au Brexit?
Bonjour. En fait, avant de rejoindre l'AFDE en octobre 2018, j'avais passé presque 7 années à Londres pour le fonds souverain de Singapour, GIC, où je me suis occupé de la gestion de la stratégie actions cotées au Royaume-Uni. Et à ce titre-là, j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup d'interactions avec les officiels, les politiques, tout l'écosystème économique et politique du Royaume-Uni et d'avoir, je pense, une bonne compréhension de cet écosystème.
Et puis tu suis toujours de très près ce qui se passe.
Tout à fait.
Alors, je vais commencer par une première question, parce que je dois dire qu'il y a un mot qui revient très très souvent sur le Brexit, c'est backstop. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit exactement quand on parle de backstop?
Oui, tout à fait. Alors déjà, le backstop, si on veut le traduire en français, c'est une clause de sauvegarde, une sorte d'assurance. Et c'est une question fondamentale, parce que depuis le début et encore aujourd'hui, c'est la pierre d'achoppement principale dans les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. En fait, au départ, tout vient de l'accord de paix signé en 1998. L'Irlande a été déchirée par des tensions politiques pendant tout le XXe siècle. Et en 1998, il y a eu cet accord de paix qui est garanti par l'Union européenne. L'Union européenne est signataire de cet accord de paix et qui prévoit qu'il n'y aura plus de frontières physiques entre l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, et l'Irlande du Sud, qui fait partie de l'Union européenne et aussi de la zone euro. Et donc l'Union européenne est engagée à deux niveaux, à un de ses pays membres qui a une frontière avec le Royaume-Uni. Et après le Brexit, la seule frontière, parce que le Royaume-Uni est vu comme étant une île, mais en fait le Royaume-Uni a une frontière physique avec l'Union européenne via la frontière irlandaise. Donc l'Union européenne a garanti cet accord et en fait préserver cette absence de frontière physique vient en totale contradiction avec l'objectif premier du Brexit, qui est de récupérer une autonomie réglementaire, douanière, tarifaire. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui, comme diraient les Anglais, qui soit abandonné. Soit l'intégrité du marché commun, soit l'intégrité politique du Royaume-Uni. Et c'est pour ça que l'histoire prend du temps, parce que c'est quelque chose de très compliqué, et que on peut débattre de savoir qui est responsable. Les Anglais ont été très légers sur cette question. Il y a certains membres du Parti conservateur qui n'ont pas pris conscience de l'importance de la question et de la complexité de la question, parce qu'on a à la fois des aspects techniques et des aspects politiques, et que ce que Theresa May a proposé comme accord, qui a été rejeté 3 fois, était une solution bancale, puisque effectivement, comment on peut résoudre le Brexit, c'était cette fameuse clause de sauvegarde, l'ensemble du Royaume-Uni, y compris l'Irlande du Nord, reste dans le marché commun, et donc il n'y a pas de frontières physique, mais l'Angleterre ne peut pas récupérer son autonomie tarifaire. Et aujourd'hui, on voit que les positions au cours des derniers jours se rapprochent, mais c'est quand même assez ironique de voir qu'en 2017, l'Union européenne avait proposé une alternative au backstop, de limiter en fait le backstop que à l'Irlande du Nord. Et les Anglais avaient refusé, en grande partie parce que Theresa May avait perdu les élections en 2017 et qu'elle était en fait dépendante de 10 députés nord-irlandais, le DUP, qui sont les unionistes, donc qui veulent que l'Irlande du Nord reste rattachée au Royaume-Uni. Et ce petit parti a un pouvoir de nuisance et un pouvoir d'influence disproportionné. Là aussi, ça a retardé la solution du backstop. Donc aujourd'hui, la grande question est de savoir quelle est l'alternative au backstop.
Alors le backstop, pour résumer, c'est donc l'incapacité de fermer cette frontière, en fait.
De fermer de façon physique. Donc en fait, il y a deux aspects, c'est de faire des contrôles réglementaires. L'Union européenne, notamment en domaine agricole, a des normes très strictes de contrôle sanitaire. Et il y a aussi les postes de douane pour collecter les tarifs douaniers. Donc l'avantage du backstop, c'est que ça évite les contrôles techniques et ça évite les postes frontières. En fait, il y a des possibilités alternatives, parce que encore une fois, cette clause de sauvegarde ne rentrerait en fonction qu'au 31 décembre 2020, si dans l'espace-temps entre aujourd'hui et le 30 décembre 2020, l'Union européenne et le Royaume-Uni sont incapables de définir leurs relations commerciales futures. C'est une clause qui viendrait en fonction par défaut. Et le gros problème, c'est que c'est vrai que ça limite le pouvoir de négociation dans la phase 2, parce que là, on est dans la phase 1, qui est l'accord de retrait. Et l'Union européenne, n'ayant pas confiance dans le Royaume-Uni, et a vu au cours des 3 dernières années que le Royaume-Uni ne venait pas avec des propositions concrètes d'alternatives, a fait mettre dans l'accord de retrait un protocole irlandais qui codifie le backstop. Et ce que voudraient les Anglais, d'une certaine façon, c'est sortir le codicille irlandais de l'accord de retrait pour en parler dans la phase 2. En fait, ce qui est important, c'est la phase 2, parce que si la phase 2 se passe bien, une fois qu'on a divorcé, on définit la relation future.
Bon, c'est déjà très compliqué, hein. Alors, on va reparler un peu du backstop probablement plus tard, et plutôt de la phase 2 un peu plus tard. Moi, j'aimerais bien qu'on se concentre un tout petit peu sur l'actualité. On a vu l'autre jour une décision donc de la High Court en Grande-Bretagne qui a été en défaveur de Boris Johnson et qui l'a obligé finalement, enfin qui a permis au Parlement de venir siéger à nouveau. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus que ça? C'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un problème pour Boris Johnson aujourd'hui?
Alors cette décision, elle est sans précédent, parce que c'est la première fois que la Cour suprême prend une telle décision. Proroger le Parlement, c'est quelque chose qui se fait pratiquement tous les ans, après une session parlementaire, qui a été en plus très longue cette année. Il y a un changement de Premier ministre, donc on suspend le Parlement.
C'est normal, c'est déjà arrivé.
Ça se fait pratiquement tous les ans, parce qu'au mois de septembre, généralement, il y a la convention du Parti conservateur et du Parti travailliste, et ça permet aux députés de quitter le Parlement pour aller à ces conventions. Mais là, ce qu'a fait Boris Johnson, c'est de suspendre le Parlement à un moment clé et de le faire très longtemps, parce que la prorogation était prévue, mais il l'a étendue de pratiquement 2 semaines. Ça réduisait d'autant le temps disponible pour le Parlement pour débattre. Et en fait, sans le dire, mais en filigrane, ce qu'a dit la Cour suprême, c'est que Boris Johnson avait menti à la reine, et qu'il manipulait la reine pour limiter les droits du Parlement. Donc la conséquence, c'est que le Parlement a commencé à resiéger.
Il resiège donc.
Mais qu'à court terme, ça n'a aucun impact. C'est juste que par rapport à l'image de Boris Johnson, c'est très négatif, parce qu'il est vu de plus en plus comme quelqu'un qui est un politicien cynique, manipulateur, qui gère avant tout sa carrière plus que les intérêts du pays. Et donc il divise non seulement sa majorité, mais un pays qui était déjà profondément divisé depuis 3 ans. Donc, il est arrivé au pouvoir le 22 juillet, et depuis, sa situation n'a fait que se fragiliser. Donc il est poussé dans une course un petit peu en avant, et au Royaume-Uni, comme dans toute démocratie anglo-saxonne, les droits du Parlement sont fondamentaux. Il y a ce système de check and balance, comme aux États-Unis, et museler le Parlement, c'est quelque chose qui est une stratégie très risquée. Depuis le début, Boris Johnson poursuit une stratégie très risquée, parce que, en fait, il a très peu de cartes en main, et dans une négociation, l'idéal, c'est d'avoir un rapport de force. Et dans ce cas de figure, il n'y a pas de rapport de force exempté. Le seul rapport de force, c'est la menace d'un no deal.
Dans son rapport avec l'Europe. Alors, je reste dans l'actualité. J'ai dit que, donc, enfin le Guy Verhofstadt donc a rejeté en fait les propositions de Boris Johnson. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces propositions des derniers jours en fait?
Alors, déjà ce qui est bien, c'est que au moins pour la première fois, il est venu à quelque chose de concret, parce que jusqu'à présent, l'Union européenne lui reprochait de ne pas avoir de plan. Si le backstop de Theresa May était hybride, la solution proposée par Boris Johnson est aussi hybride. Il y a quand même des avancées. Pour la première fois, en fait, Boris Johnson accepte que l'intégralité de l'Irlande soit soumise aux régulations européennes. Au départ, on pensait que ce serait uniquement pour les produits agricoles, mais aussi, là, il a ajouté les biens et services. Donc ça, c'est l'aspect positif, et on va vers ce qui devrait être la solution, un backstop limité à l'Irlande du Nord avec une frontière dans la mer. Le problème
Donc l'Irlande du Nord, d'une certaine façon, resterait dans le respect des règles de la communauté européenne.
Jusqu'en 2025.
Jusqu'en 2025.
Jusqu'en 2025. Bon, et en 2025, le Parlement nord-irlandais, il y a un Parlement régional, déciderait de façon unilatérale si l'Irlande du Nord reste dans le marché commun.
D'accord.
Le problème, les deux aspects qui sont vus négativement par Guy Verhofstadt et certains Européens, le premier, c'est de donner le pouvoir au Parlement régional nord-irlandais de révoquer unilatéralement cette appartenance au marché commun. Mais surtout, c'est que là aussi, il a coupé la poire en deux en disant que l'Irlande du Nord reste dans le marché commun pour les réglementations, ce qui évite de mettre une infrastructure physique, mais l'Irlande du Nord sort de l'Europe pour la partie douanière. Et que donc, il y a deux régimes douaniers, un régime douanier pour le Royaume-Uni, incluant l'Irlande du Nord, et un régime douanier pour l'Irlande du Sud.
Ça reste d'une grande complexité. Et qu'est-ce qu'il y avait comme autre proposition?
C'est tout.
C'est l'essentiel, d'accord.
C'est l'essentiel.
D'accord. Bon, alors revenons un peu maintenant sur les perspectives, parce que là on a discuté un peu de la problématique et on se rend compte qu'elle est quand même, on est sur des questions qui sont extrêmement complexes d'organisation. Est-ce qu'aujourd'hui le Parlement peut empêcher Boris Johnson de procéder à un Brexit?
Le Parlement a fait passer...
Je parle du Parlement britannique, bien sûr.
Oui, oui. Le Parlement britannique, le mois dernier, a fait passer une loi qui oblige Boris Johnson à venir proposer une solution au plus tard le 19 octobre. Et si jamais au 19 octobre aucun accord n'est trouvé, de demander un report du Brexit, parce que la date limite est le 31 octobre. Donc légalement, on va dire qu'un hard Brexit n'est plus possible en l'état. Et là, Boris Johnson jouait avec les mots parce qu'il a dit qu'il allait se conformer à la loi, mais que ça n'exclut en aucun cas un hard Brexit fin octobre. Donc ce que peut faire le Parlement, c'est revoter des lois. Et encore une fois, ça veut dire que Boris Johnson, certains évoquent le fait qu'il pourrait décréter l'état d'urgence au Royaume-Uni pour empêcher cette loi d'être appliquée.
Donc ça permettrait, que ça éviterait que le Parlement siège, c'est ça l'état d'urgence?
C'est de dire que, comme en France, si le président déclare article 16, tout est suspendu et fait le Premier ministre a tous les pouvoirs. Ça n'a jamais été fait, ce serait une stratégie parce qu'il y a déjà des parlementaires qui demanderaient à la reine de destituer Boris Johnson. Mmh. Enfin, donc le Parlement, aujourd'hui, on est dans une partie de poker. Il y a le backstop qui est un réel sujet qu'il faut régler. Et si juste pour finir là-dessus, parce que c'est important, il y a quand même eu des avancées des deux côtés. Cette semaine, pour la première fois, l'Union européenne a dit qu'ils étaient prêts à envisager une date limite du backstop. Parce que jusqu'à présent, ce qui gêne les Anglais, c'est que le backstop, même si c'est une clause de sauvegarde en cas de non-accord commercial le 31 décembre 2020, c'est illimité. L'Union européenne a dit qu'ils étaient prêts à mettre une date limitée. Et Boris Johnson, pour la première fois, a accepté que l'ensemble de l'Irlande soit soumis au règlement européen.
Donc ça bouge quand même un peu dans le sens de la négociation.
Voilà, derrière les postures de scène, on voit quand même que les points de vue commencent un petit peu à converger, mais on part de très bas. Le vrai sujet, c'est qu'on est dans une partie de poker menteur, parce que Boris Johnson sait qu'Angela Merkel sait qu'un hard Brexit aurait un impact significativement négatif sur l'économie allemande qui n'en a pas besoin, et l'Union européenne sait qu'il n'y a pas de majorité au Parlement pour un no deal Brexit. Il y a un mandat qui a été donné au Premier ministre pour régler le Brexit, mais les Britanniques n'ont jamais conçu que Brexit veut dire un Brexit. Brexit peut dire un ensemble de même sauf Brexit et un Brexit, il y a différentes options qui sont possibles. Donc, ce sera quand même très difficile pour Boris Johnson, avec le Parlement actuel, de faire un no deal Brexit. La grande question...
Donc, il n'y a pas, d'après toi, si j'essaie de résumer, cette date du 31 octobre, en fait, on peut l'oublier aujourd'hui.
Elle a de fortes chances d'être retardée. On a déjà vu, hein, au départ, le Brexit était censé se passer le 31 mars 2019, et une extension. La seule chose, c'est que l'extension de l'article 50, qui doit être demandée par le Royaume-Uni, doit être accordée à l'unanimité des pays européens. Et il y a déjà des personnes qui spéculent que Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, s'y opposera. On verra en temps et en heure.
C'est demain, quoi. Enfin, donc c'est quand même une situation inextricable, quoi.
C'est inextricable et qu'on se rapproche du Conseil européen du 17 octobre, qui sera le sommet au cours duquel on peut voir un accord ou au contraire de voir que la tension monte encore d'un cran.
Bon, et puis c'est compliqué aussi parce que si j'ai bien compris, même au sein du Parti conservateur, il n'y a pas d'unanimité sur la question. Au sein du Parti travailliste, il n'y a pas d'unanimité sur la question. Donc, il y a un parti pro-Brexit aussi. Donc, enfin, où est-ce qu'on en est sur cette majorité et ce sur-parlement ?
Oui, alors, déjà, Theresa May avait une majorité relative et elle dépendait des 10 députés nord-irlandais du DUP. Cette stratégie de Boris Johnson depuis le mois de juillet a conduit à l'exclusion de 21 députés conservateurs. Donc non seulement...
Qui ont démissionné du Parti conservateur.
Ils ont été exclus.
Ils ont même pas
ils ont
été exclus.
Ils ont été exclus, et c'est encore une fois sans précédent. Donc le Parti conservateur n'a plus la majorité. Il faut 320 députés pour avoir la majorité au Parlement de Westminster. Donc le Parti conservateur n'a plus de majorité. Il risque d'avoir encore d'autres départs. Et dans le même temps, le parti travailliste est aussi profondément divisé, parce que son leader, Jeremy Corbyn, est pro-européen, mais 60% des députés travaillistes ont été élus dans des circonscriptions qui ont voté pour quitter l'Union, pour le Brexit, pour quitter l'Union européenne. Et on a ce parti Brexit, comme tu le mentionnais, qui est le nouveau parti de Nigel Farage.
Qui ne siège pas vraiment au Parlement.
Il n'a pour l'instant pas de député.
C'est lors des élections européennes, finalement, où les Britanniques ont voté quand même que c'est, il s'est révélé important.
Oui, et il risquerait d'avoir un score très élevé en cas de nouvelles élections. Donc, encore une fois, il n'y a pas de majorité pour un no deal. Et mais il n'y a pas non plus de majorité pour savoir ce que veulent les Anglais. Depuis le début, les Anglais n'ont pas expliqué quelle était leur vision de la relation commerciale future. Et on pourra peut-être à ce moment-là en parler maintenant. C'est que Boris Johnson, le seul argument rationnel pour avoir un no deal, l'avantage d'un no deal, parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients, ce sera un chaos logistique et un impact négatif à court terme sur l'économie, mais l'avantage, c'est retrouver une liberté de négociation commerciale réglementaire. Et donc, ça a déjà été mentionné, que l'Angleterre deviendrait un peu le Singapour de l'Europe, c'est-à-dire un pays qui accorde une grande flexibilité, une grande souplesse sur tout ce qui est normes environnementales, sociales, salariales, qui serait un cauchemar pour l'Union européenne, parce qu'à ses portes, il y aurait une sorte de dumping fiscal et social, et ça, l'Union européenne n'en va pas. Mais ce n'est pas un modèle qui est crédible, parce que le Royaume-Uni n'a pas la taille de Singapour, et a une histoire différente. Mais au moins, ça serait une justification. Et Boris Johnson pourrait dire, parce que le Parti conservateur est pro-business, proche du patronat anglais, de dire, nous, le Brexit, c'est un reset, et voici comment nous envisageons l'avenir. Nous allons complètement repenser notre industrie, nous allons mettre l'accent sur tel ou tel secteur. Et que ce soit Theresa May, Boris Johnson ou le Parlement, personne n'a été capable d'expliquer à l'Union européenne ce qu'il voulait. Donc la grande question aujourd'hui, c'est est-ce que le Brexit est réglé par des élections ou avant des élections ? Au départ, c'était de faire d'abord des élections pour régler le Brexit. Et les événements depuis le mois de juillet conduisent aussi bien le Parti conservateur que les travaillistes de se dire que c'est un très mauvais calcul. Parce qu'aujourd'hui, les sondages donnent les travaillistes largement perdants. Il y a un an, Jeremy Corbyn aurait sans doute gagné l'élection, il aurait été Premier ministre, et ça aurait été très négatif pour l'économie britannique. Aujourd'hui, le gros problème, c'est que les conservateurs gagneraient, mais ils seraient sûrement sanctionnés parce qu'on les accuserait, encore une fois, de ne pas avoir réglé. Surtout Boris Johnson s'est fait fort de dire « je vais régler le Brexit ». Donc il vaut mieux des deux côtés régler le Brexit et faire une campagne électorale, on va dire, classique sur leurs fondamentaux. Les travaillistes défendront l'égalité sociale avec un programme très marxiste, et les conservateurs sur leurs fondamentaux habituels, qui est le libéralisme, le capitalisme, One Nation. Parce que si jamais il y a une extension qui est demandée et qu'il y a une élection après, on va dire la classe ouvrière qui votait avant pour les travaillistes voterait pour le parti de Nigel Farage, et que le parti libéral-démocrate récupérait tous les électeurs pro-européens des conservateurs. Donc, on va dire que les deux partis ont cet intérêt commun, c'est de régler d'abord le Brexit pour faire des élections.
Donc, j'avais une question qui était, peut-il y avoir des élections générales? Ta réponse, c'est non, pas pour l'instant, parce qu'en fait, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait des élections générales.
Et surtout, c'est que la procédure au Royaume-Uni est différente de la France. Si le Premier ministre demande la dissolution du Parlement, il a besoin de l'accord des deux tiers des députés, et donc de l'opposition.
D'accord, donc il ne l'aura pas.
Il ne l'aura pas, mais la façon de l'avoir indirectement, c'est de demander un vote de confiance, de le perdre, et dans ce cas-là, il y a 14 jours pendant lesquels quelqu'un doit émerger pour former un gouvernement, soit quelqu'un du Parti conservateur, soit travailliste, et au bout de ces 14 jours, si ce n'est pas le cas, là il y a des élections.
D'accord. Donc, bon, on part sur l'idée qu'il n'y a pas d'élection, hein, puisque le résultat serait absolument... Enfin, ça ferait exploser, en fait, les deux partis principaux, puisque ça introduirait deux nouveaux partis quasiment au sein du parlementarisme britannique. Est-ce qu'il peut y avoir un nouveau référendum?
Alors, c'est comme on a un blocage, c'est une hypothèse qui a été évoquée et dont la probabilité a augmenté. Mais je pense qu'elle est beaucoup moins probable que de... nouvelles élections, parce que il y a un sentiment de lassitude profond. Déjà, il faut trouver la question. Est-ce que c'est la même question, ou est-ce que c'est, voulez-vous un soft ou un hard Brexit? Voulez-vous rester dans l'Union européenne? Et que le pays étant tellement divisé, il y avait pas mal d'articles dans la presse anglaise au cours du week-end, qui n'excluaient pas des émeutes, des assassinats de députés, donc un chaos. Et encore une fois, l'Angleterre est connue pour son pragmatisme,
son calme.
Les manifestations qu'on peut voir régulièrement en France n'ont pas lieu d'être au Royaume-Uni. Donc je pense qu'aucun parti, mis à part quelques députés, accepteront un référendum. Et surtout, c'est que l'Union européenne est censée avoir son mot à dire sur la question qui serait formulée. Si les élections seront beaucoup plus faciles, la seule chose, c'est que le no deal pourrait revenir si jamais il y a des élections. Imaginons qu'il y a une extension de l'article 50 qui est accordée, donc pas d'accord sur le Brexit, mais extension de l'article 50 jusqu'au mois de janvier, organisation d'élections au mois de novembre, c'est que les conservateurs finalement gagnent les élections. Boris Johnson fait campagne comme Donald Trump, c'est moi contre l'establishment, le peuple contre l'establishment, qui gagne les élections. Là, il aurait la légitimité et le Parlement qui lui permettrait de faire un hard Brexit.
D'accord. Donc il va falloir qu'on attende un peu de voir comment ça se développe. Juste peut-être, on entend parfois que maintenant, il y a un risque d'explosion de la Grande-Bretagne à terme, c'est-à-dire avec l'Écosse qui sortirait, l'Irlande qui sortirait, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est réaliste ou non?
Oui, c'est réaliste, parce que déjà il y a eu un référendum, je crois que c'était en 2014 en Écosse, pour l'indépendance, qui a été perdu, mais de peu. Et donc l'Écosse est dirigée par un parti, on va dire, nationaliste, le SNP, qui est une sorte d'excroissance du parti travailliste, qui a d'ores et déjà dit qu'ils referont un référendum. Il y a des critères pour le faire, sûrement en 2020-2021. Donc là aussi, un no deal provoquerait l'explosion politique du Royaume-Uni. Ça, c'est une certitude. Boris Johnson l'a en tête. Et encore une fois, il ne va pas le reconnaître, mais il n'a pas forcément envie de rester dans l'histoire comme étant le premier ministre qui a provoqué la plus grande récession au Royaume-Uni, transformer Great Britain into Small Britain. Et après, il y a même le Pays de Galles. Enfin, le Royaume-Uni, la différence par rapport à l'Angleterre, c'est l'Angleterre plus l'Écosse, plus l'Irlande du Nord, plus le Pays de Galles.
avec pas mal de dissensions apparemment. Bon, parlons un peu d'économie peut-être. Alors, quel est l'impact de cette situation-là sur l'économie britannique? Est-ce qu'elle se porte plus mal que les autres économies européennes? Qu'est-ce qu'on observe?
Alors, ce qui a été un peu surprenant, parce que le référendum date de juin 2016, c'est que dans un premier temps, l'économie britannique a été très bien orientée. Elle ne s'est pas effondrée, elle a été beaucoup plus résiliente, elle s'est beaucoup mieux tenue que l'économie de la zone euro. Mais clairement, le fait que le processus dure beaucoup plus longtemps que prévu, parce qu'au départ, l'Angleterre était censée quitter l'Europe le 31 mars, on a vu depuis 6 mois une très forte baisse de l'indicateur avancé. On voit partout que la croissance ralentit, mais au Royaume-Uni, typiquement, il y a eu cet effet un peu de cliquet, et que quand on rencontre des entreprises britanniques, elles disent qu'actuellement, c'est la pire des situations, parce que comme il y a une incertitude, tout s'est arrêté. Les grands projets, les entreprises n'embauchent plus. On a vu récemment la société de travail temporaire de recrutement Hays, qui nous disait qu'actuellement, c'est la pire configuration pour l'économie britannique. Et là aussi, on voit que Donald Trump a besoin d'un accord parce qu'il ne peut pas être réélu en récession. Boris Johnson ne pourra pas rester Premier ministre pendant plusieurs années avec une déconfiture de l'économie britannique. Surtout que le Parti conservateur était historiquement très proche du patronat.
Donc si je comprends bien, il a plutôt finalement, contrairement à ce qu'il dit, intérêt à un deal plutôt qu'un no deal.
Oui, il a tout intérêt, il a voulu arriver à tout prix au pouvoir, et on a vu qu'il a déjà changé d'avis très souvent, il est très opportuniste, et il essaye simplement de maximiser sa situation, son pouvoir de négociation, parce qu'encore une fois, ce qui est fondamental, et on n'est toujours pas arrivé à la phase 2, on est toujours bloqué dans la phase 1, la phase 2, c'est de définir la relation commerciale future, et que c'est ça qui influencera le potentiel économique britannique.
Alors il nous reste quelques minutes, si on respecte nos 30 minutes. Tu es gérant d'échiquier agresseur. Qu'est-ce que tu fais de tout ça, Dante? Est-ce que ça veut dire qu'il faut éviter d'investir en Grande-Bretagne, ou au contraire, est-ce que tu peux répondre rapidement à cette question-là?
Je peux déjà rappeler que l'Angleterre est le principal marché. L'Angleterre représente 25% des indices européens. On a vu qu'il y a eu beaucoup de fusions-acquisitions, d'opérations de rachat de sociétés britanniques. Dans Agressor, on a eu une OPA sur Merlin et sur Cobham en juin.
Donc tu as toujours des entreprises, tu as toujours des positions sur la Grande-Bretagne.
On a aujourd'hui une exposition qui est à peu près en ligne avec l'indice. C'est-à-dire qu'on a 25% du portefeuille dans des sociétés britanniques, qui sont avant tout des sociétés qui font leur profit à l'international ou en Europe. C'est le cas par exemple de Vodafone ou de Convatec. On n'a pas été acheté des distributeurs comme Marks & Spencer, des promoteurs immobiliers Royal Bank of Scotland ou Lloyd, une entreprise purement domestique, parce qu'il y a ce risque Brexit. Il y a aussi le fait que ce sont des entreprises qui sont victimes de changements technologiques, réglementaires, concurrentiels importants. Le marché anglais est très profond, très diversifié. On a de tout est coté au Royaume-Uni. C'est aujourd'hui un marché qui conserve des opportunités d'investissement. Il faut aussi préciser que le consensus est très négatif. Les investisseurs sont massivement sous-exposés au Royaume-Uni et à l'euro sterling et ont par défaut quelques grandes entreprises internationales du FTSE 600 comme Glaxo, BP, Shell. Nous, on considère que la probabilité d'une résolution est forte, que le risque d'un hard Brexit a augmenté, mais que ça ne reste pas le scénario central, et que la meilleure façon de le jouer, c'est d'être sous-exposé à ces entreprises qui sont souvent très bien valorisées, qui sont des bonnes proxies, et qui seront affectées à double niveau si les taux d'intérêt remontent, que ce sont des entreprises qui se traitent sur des multiples qui impliquent déjà pas mal d'attentes, et un rebond du sterling, parce que dans ce monde où on cherche des nouveaux repères, où pas mal de choses ne fonctionnent plus correctement, il y a quelque chose qui est toujours qui marche très bien, c'est que quand le sterling monte, les entreprises du FTSE 600 baissent, et on a vu, c'était le cas il y a 15 jours, il y a eu plusieurs séances de rebond du sterling, et le FTSE baissait, et toutes les entreprises de type Diageo baissaient. Justement, il faut regarder, pour avoir un bon sentiment sur où va le Brexit, c'est regarder la livre sterling. C'est le bon baromètre du sentiment sur la livre sterling.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui, alors, ce baromètre ?
Alors, il a rebondi depuis les plus bas. On voit qu'il est maintenant à peu près entre 1,12 et 1,14. Et si on regarde les probabilités, la probabilité d'un no deal est aujourd'hui de 20 à 25%, qui est en hausse par rapport à la situation d'il y a 6 mois, mais qui est en baisse par rapport à début septembre.
Bon, alors on va suivre ça de très près. Je te remercie pour de t'être plié à cet exercice un peu original, hein, puisqu'encore une fois, ton activité au jour le jour, c'est de gérer échiquier agresseur. Mais malgré tout, merci pour toutes ces lumières. J'espère que, encore une fois, cet entretien vous a intéressé. Et puis, si la solution, si la situation continue, si elle évolue d'une certaine façon, on vous donnera peut-être à nouveau rendez-vous avec Frédéric pour faire le point. Merci à tous pour votre écoute et puis à bientôt pour une prochaine conférence téléphonique, hein, puisqu'on commence à prendre un rythme de plus en plus régulier sur ce format de communication. Au revoir.